Cette année, nous allons feuilleter ensemble le livre du patrimoine de la Mayenne. Je dis livre, car le patrimoine, c'est une histoire qui se déroule au fil du temps et qui nous raconte la vie de ceux qui nous ont précédés. C'est une histoire qui est gravée dans la pierre, le bois, la maison, le moulin, le lavoir, l'église ou même le château. Ce livre, en plus, ça n'est pas qu'un symbole que j'utilise aujourd'hui, c'est une réalité, car ce livre existe. L'ASAHM, Société d'archéologie et d'histoire de la Mayenne, vient de publier en effet son dernier ouvrage avec le concours financier du Conseil Général, Le patrimoine de la Mayenne, 500 sites à découvrir. Rédigé par Jacques Naveau, qui va nous servir de guide au long de cette année. Bonjour Jacques Naveau.
Bonjour.
Vous étiez récemment l'invité de notre rédaction, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas encore bien, je rappelle que vous avez une formation d'historien, que vous étiez directeur du service du patrimoine pour le département de la Mayenne et que votre fidélité à la SAHM ne s'est jamais démentie. Vous en avez été le président et puis vous continuez à l'enrichir de vos recherches et de vos découvertes, dont ce livre.
Oui, la Société d'archéologie et d'histoire de la Mayenne est une vieille institution. Elle est née en 1878. Ça a été à l'origine une commission administrative et puis petit à petit, elle est devenue une association. Et elle a surtout, depuis 20 ou 30 ans, cherché à s'ouvrir le plus possible à tous les Mayennais, car sa fonction, c'est de servir un peu d'intermédiaire entre les chercheurs et le grand public. Et elle a cherché par tous les moyens à trouver ce qui correspond aux attentes du grand public, notamment les dernières modifications qu'elle a opérées dans ses publications, ça a été de se spécialiser dans des publications annuelles thématiques, comme le livre dont nous allons parler aujourd'hui, et puis de mettre sur Internet, grâce aux archives départementales qui nous hébergent, les articles un peu plus spécialisés, si vous voulez, et surtout plus divers.
Mais c'est quand même une association de savants. Enfin, l'information est quand même très claire, très détaillée, très approfondie en tout cas.
Oui, mais il n'y a pas que des savants dans cette association. Il y a des chercheurs, bien entendu, des historiens, des archéologues. Mais il y a aussi des gens qui s'intéressent tout simplement à leur patrimoine, à l'histoire de leur département. Et le travail de l'association, c'est de faire le lien entre les deux, de permettre à tout ce monde de se côtoyer, de se parler, d'avoir un vocabulaire commun, de faire de l'histoire qui soit pas réservée aux spécialistes, mais qui soit au contraire ouverte à tout le monde, de façon à ce que les Mayennais sachent un petit peu ce qui s'est passé là où ils vivent.
Mais il y a une opération qui a été très réussie et très populaire, ça a été ce livre sur les chapelles en Mayenne, doublé de l'exposition sur la restauration des chapelles en Mayenne, qui est itinérante. Beaucoup de gens l'ont vu, et ça c'était vraiment un très bon lien.
Oui, c'est un très bon lien et ça permet aussi d'ailleurs d'associer des gens qui sont des bénévoles, des amateurs d'histoire au très bon sens du terme, à la recherche elle-même, puisque eh bien on voit un peu partout dans le département des gens s'intéresser aux chapelles de leur secteur, faire des enquêtes, on leur donne des outils pour ça, on leur donne les moyens. Et le livre dont nous allons parler a été fait dans le même esprit, de s'adresser vraiment à un très grand public. Il fallait doter la Mayenne d'une sorte de dictionnaire de son patrimoine. De ce point de vue, ce livre prolonge un peu ce qui est fait à Sainte-Suzanne, au château de Sainte-Suzanne, sous la forme d'un lieu d'exposition.
Le SIAP.
Le SIAP, voilà, le Centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine à Sainte-Suzanne, est une sorte de porte ouverte au patrimoine de l'ensemble du département, mais cela sous forme de vitrines, de maquettes, d'informations diverses. Et le livre, si vous voulez, c'est le prolongement écrit qui permet à chacun d'aller maintenant sur le terrain avec en poche l'information minimum. Alors, il faut voir aussi que nous avions un grand besoin d'actualiser notre information. On s'en rend bien compte un peu partout dans les communes de la Mayenne. Des gens veulent travailler sur leur passé communal, cherchent des sources, cherchent des informations et ne trouvent que des choses qui ont été écrites il y a 150 ans ou plus. Or, l'histoire évolue, hein, c'est évident. Les chercheurs cherchent, ouais, travaillent, et donc les notions évoluent. Ce que l'on a de mieux en Mayenne dans les livres anciens, c'est Dictionnaire d'Abbé Angot, qui est quelque chose de tout à fait exceptionnel, que bien des départements nous envient. Cependant, l'abbé Angot était tout à fait à l'aise dans les archives, où il a fait un travail absolument magnifique. En revanche, ce n'était pas un spécialiste d'architecture. Se prétendait absolument pas spécialiste d'architecture. Et donc, les gens qui ne trouvent que l'abbé Angot pour avoir des informations sur tel château, sur telle église de leur village, eh bien, ont une information qui a vieilli. Il y a des erreurs dans l'abbé Angot, ce qui est tout à fait normal. Hein, c'est pas du tout dire du mal de l'abbé Angot que de dire ça. Donc, il fallait faire ce travail, d'autant plus que de l'information, on en trouve sur Laval, sur Mayenne, sur Château-Gontier, ou alors sur des gros sites comme Jublin, comme Sainte-Suzanne. En revanche, on n'en trouve pas sur la foule des petites communes. Et ce livre est là pour pallier ce problème, pour pallier ce manque, pour équilibrer en quelque sorte la documentation.
Oui, ça me rappelle un exemple. On faisait une recherche sur une jolie petite chapelle près de Jublin, et il y a deux statues, dont une en bois polychrome. On n'a pas tellement d'autres informations que le dictionnaire de l'abbé Angot, qui, je crois, parlait de statues grossières et pas très intéressantes.
Voilà, ça
et
c'est
en fait, c'était des statues qui maintenant sont redécouvertes et qui sont répertoriées. C'était des bois polychromes du XVIIe siècle.
Mais bien sûr,
on voit bien l'intérêt.
Les goûts changent, et l'abbé Angot est représentatif de son époque où effectivement on trouvait tout un tas de périodes grossières et sans intérêt, alors qu'aujourd'hui, au contraire, on découvre un intérêt à tout cela. Donc, le dictionnaire de l'abbé Angot, encore une fois, est sensationnel et en même temps un petit peu insuffisant. Voilà. Et donc, il faut continuer à travailler.
Et vous avez opéré quel choix pour, quels critères avez-vous
Alors respecté? Là, je m'attends à être critiqué. je rase les murs quand je suis dans les rues, parce que tout un tas de gens vont me dire « Comment ça se fait que vous n'avez pas parlé de mon église, de ma maison, de mon château, de ceci, de cela ?» Il fallait faire un choix, bien entendu. Ouais, hein, ouais. Dans un livre, on est limité. Et je me suis rendu compte, j'ai travaillé avec d'autres personnes pour ce choix. Hein, on a fait un véritable groupe de travail avec des gens travaillant dans l'inventaire ou spécialiste de telle ou telle période, et chacun a apporté un petit peu ses connaissances, et à partir de là on a établi un tableau, et je me suis rendu compte que on arrivait aux alentours de 500. Alors je me suis dit très bien, 500, c'est un chiffre symbolique, c'est un chiffre simple, on va se débrouiller pour qu'il y ait 500 sites là-dedans. Donc encore une fois, il a fallu sacrifier un certain nombre de choses. Alors, le critère essentiel, c'est que le site soit visible, accessible.
Ah oui, c'est ça.
Ce livre-là, c'est pas un livre à lire chez soi le soir dans le lit, c'est un livre à emmener sur le terrain et qui sert à aller découvrir réellement, de ses yeux, un patrimoine. Alors, bien sûr, ça exclut tout un tas de choses intéressantes, en particulier dans le domaine des châteaux, parce que les châteaux sont des œuvres d'art, mais c'est aussi tout simplement des lieux de vie. Il y a là-dedans des gens qui habitent et qui, bien entendu, n'ont pas envie qu'on vienne comme ça chez eux à tout moment, ce qui est tout à fait normal. Donc, si un château, quel que soit son intérêt, n'est pas accessible et au moins n'est pas visible de l'espace public, eh bien, on n'en parle pas, et simplement pour respecter la vie privée de ceux qui y habitent. Le minimum, c'est la visibilité depuis l'espace public.
Oui, de la rue, de la route, du chemin.
Et dans ces cas-là, le château est signalé, et souvent même, si vraiment il y a une photographie qu'on puisse faire sans que ça gêne les gens, on met une photographie vue de loin, mais il est au moins signalé. Et puis, alors, sont signalés assez systématiquement les châteaux qui, la plupart du temps, sont ouverts aux journées du patrimoine. Voilà. Un certain nombre de propriétaires de châteaux font ce bel effort d'ouvrir aux journées du patrimoine. Ils le font pas forcément tous les ans, parce qu'il peut y avoir des circonstances particulières qui les empêchent de faire. Donc, on a essayé d'établir un tableau de ce qui s'est fait les dernières années, et les sites, châteaux ou autres, ouverts aux journées du patrimoine, en général, sont mentionnés. Et puis, j'ajoute, oui, enfin, vous me parlez de critères, j'allais en oublier un, et pourtant, c'est tout simplement les choix de l'auteur. L'auteur a à ses compétences, à ses goûts. Oui. J'ai fait de belles découvertes en faisant ce livre-là, des monuments que je connaissais pas, que j'ai des petites églises de campagne que j'ai trouvé absolument sensationnelles. Donc là, je me suis rué là-dessus et j'en ai parlé. Et puis il y a des choses que je connais moins bien. Et dans ce cas-là, je suis soit discret, soit je n'en parle pas, tout simplement parce qu'on ne connaît pas tout.
Hein. Eh oui. J'ai repéré une phrase dans votre introduction et qui m'a beaucoup touchée. Vous écrivez « Historiquement, l'Église a été le bien commun, concentrant qualité architecturale et richesse ornementale. » Je trouve que c'est une phrase qui amène beaucoup de réflexions, même sociales, politiques, artistiques.
Ça correspond à une réalité évidente. D'ailleurs, simplement en feuilletant ce livre, vous verrez la proportion des églises par rapport aux autres monuments. L'église, effectivement, dans les campagnes en particulier, mais dans les quartiers urbains, c'était sans doute à peu près la même chose, était le seul endroit où la plupart des gens pouvaient voir de l'art. C'est là que se concentraient l'art, les tableaux, les statues, les retables. Le bâtiment lui-même était un bâtiment de pierre et ornementé autant que c'était possible, alors que les gens vivaient, pour beaucoup d'entre eux, dans des maisons toutes simples, et n'avaient pas les moyens de... Donc, si vous voulez, l'art, on le trouve essentiellement en deux endroits, en simplifiant beaucoup les choses. On le trouve dans les châteaux, et là, il est à disposition de personnes privées. Parfois, ces châteaux étaient ouverts à la population rurale, dans des circonstances particulières, mais enfin, en général, c'est un lieu de vie privée, donc cet art est un art privé et peu accessible. Et puis, à l'inverse, l'église était un peu le lieu commun, le lieu de réunion commun de l'ensemble de la société paroissiale, puisqu'à cette époque-là, on parlait pas de commune, on parlait de paroisse. Et donc, de nos jours, eh bien, ça se constate encore. L'église est souvent quelque chose dont les gens sont fiers. C'est quelque chose où on se reconnaît, c'est une sorte de lieu d'identification de la population d'une commune maintenant, parce qu'on sait que c'est là que l'on va trouver des œuvres qui dépassent la moyenne des objets que l'on a quotidiennement sous les yeux. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'art. Alors, c'est pour ça que les églises tiennent une place importante dans ce livre. Et d'ailleurs, je signale simplement, comme c'est là, que 50% des églises mayennaises sont des églises anciennes. J'entends par anciennes, antérieure au 19e siècle, et on peut ajouter à ces 50% 12% qui ont été très transformés au 19e, mais qui conservent tout de même des traces plus anciennes que cela. Donc vous voyez, il y a un patrimoine ancien important en Mayenne. Mais encore une fois, je vous propose qu'on le garde pour une autre émission.
Vous êtes sur Fidélité Mayenne pour notre émission Histoire et Patrimoine. Je reçois Jacques Naveau qui nous présente son ouvrage Le patrimoine de la Mayenne, 500 sites à découvrir, qu'il nous commentera en détail chaque mois. Et alors maintenant parlons un peu de l'habitat, les maisons, les châteaux.
Oui, ce livre est effectivement l'occasion de faire un petit peu une synthèse sur ce que l'on trouve en Mayenne. Et dans cette synthèse, j'ai cherché surtout à tenir compte des recherches récentes, parce que nos connaissances sur l'habitat évoluent et évoluent très vite en ce moment. Elles évoluent en particulier grâce au travail du service de l'inventaire, le service départemental de l'inventaire, qui dépend aussi de la région, puisque la région a cette compétence. Et les services municipaux, enfin en particulier le service de la ville de Laval, font un gros travail actuellement et ça donne des résultats. Par exemple, ça a permis ces derniers temps de mettre en évidence l'existence d'un habitat rural à poteaux de bois, sans étage, qui est caractéristique de l'habitat de la fin du Moyen-Âge dans les campagnes mayennaises. C'est quelque chose qu'on ignorait complètement.
Ah
ça.
Oui, c'est très récent.
Et on est en train de s'en apercevoir dans des maisons qui ont été transformées plus tard. Cet habitat à poteaux de bois avait des murs en torchis, et puis plus tard, le torchis a été remplacé par des cloisons de pierre, mais les poteaux de bois ont été maintenus sur place, et on les retrouve cristallisés en quelque sorte dans la forme actuelle de ces maisons. De même, on évolue très vite en ce moment dans la datation de ces fameux fameuses maisons à pans de bois que l'on trouve dans des villes comme Laval, vous pensez à la Grande Rue. Mmh. Alors, toutes ces maisons à pans de bois, autrefois, qu'est-ce qu'on disait? Bon, on disait fin 15e, début 16e, pour pas se mouiller, parce qu'on savait pas trop de quand elles dataient, et on se disait qu'en fin 15e, début 16e, c'est une bonne moyenne. Eh bien, maintenant, on est capable d'aller plus loin que ça, et d'en dater certaines. Par exemple, la maison qu'on appelle le Pou Volant, dans le bas de la Grande Rue, à Laval, a pu être datée avec précision de 1423, grâce à l'utilisation d'une technique qu'on appelle la dendrochronologie,
oui, qui consiste, mot, oui.
Voilà, ça consiste à analyser les cernes du bois. Un arbre, quand il pousse, fabrique des cernes chaque année, hein, et mais l'épaisseur de ces cernes dépend du temps qu'il fait. S'il fait sec, s'il fait humide, l'épaisseur va pas être la même. Et en comparant donc des tranches de bois avec des tranches de référence, des bois qui sont bien datés, et en faisant se superposer en quelque sorte les cernes, on arrive à savoir quand est-ce que le bois a été abattu. Si on a beaucoup de chance, c'est-à-dire si on a vraiment une pièce de bois très complète, on peut dire à la saison près, non seulement à l'année près, mais à la saison près, quand est-ce que ce bois a été abattu. Et on sait, chose que beaucoup de gens ignorent, parce que les gens s'imaginent souvent qu'autrefois on utilisait des bois secs, c'est absolument faux. Autrefois, on construisait avec du bois vert, avec du bois qu'on venait de couper, de façon à ce que tout ça sèche ensemble, une fois assemblé. Là, on avait moins de risques de déformation, voire de cassure, en utilisant du bois vert. Donc, la datation d'un bois qui vient d'être coupé, c'est aussi la datation de la maison à quelques mois près, si vous voulez, ou à 1-2 ans près, au maximum. Bon, bref, on évolue beaucoup là-dessus. Alors, il y a tout ce patrimoine, vous voyez, en bois qui est en train de ressortir actuellement, et puis il y a le patrimoine en pierre. On a construit des maisons en pierre, surtout à partir du XVIIe siècle. Les fameuses maisons de tisserands, dont malheureusement beaucoup ont disparu ces dernières années, étaient plutôt des maisons de pierre. Alors, à côté de cet habitat populaire, vous avez l'habitat des grandes demeures qui sont très caractéristiques de villes comme Laval, le quartier du Lissembroise-Paré, par exemple, ou Mayenne, le quartier de la place Chevreuse. Ça, c'est typique de l'enrichissement des propriétaires de forges ou bien des marchands de toile.
Oui, le textile
mais aussi c'est ça, et aussi de gens qui travaillaient dans l'administration, des juges par exemple, et qui se sont considérablement enrichis au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, et qui ont construit ces belles demeures. Et puis enfin, une autre caractéristique de la Mayenne, eh bien, c'est le renouvellement très profond de l'habitat, en particulier dans les campagnes, au XIXe siècle. Les villages mayennais ont été profondément reconstruits au XIXe siècle, et ça, on le constate absolument partout.
Ah oui. Alors à cause de l'enrichissement, j'imagine.
Oui, tout à fait. Grâce aux activités du 19e siècle, puis aux transformations de l'agriculture.
L'agriculture, oui, le chaulage peut-être.
Le chaulage des terres, notamment, c'est ça.
Et sinon, il y a aussi tout un travail que vous avez fait autour de l'équipement public, les routes.
Oui, alors l'équipement public est souvent celui dont on parle moins, parce que c'est pas forcément celui qui a laissé plus de traces, mais il y a les routes, effectivement. Et ça, c'est une chose que l'on découvre dès qu'on commence à étudier les réseaux routiers anciens. On s'aperçoit qu'il en reste beaucoup de traces aujourd'hui. Si vous allez de Montsûr à Laval par la Ricouillère, eh bien, vous roulez pendant des kilomètres sur une voie romaine sans le savoir.
Oui.
Bon, vous n'êtes pas exactement à l'emplacement de la chaussée romaine, vous roulez sur du goudron, évidemment, mais en dessous de vous, il y a une chaussée romaine qui peut être sous la route ou à 5 ou 10 mètres à gauche ou 5 ou 10 mètres à droite. Et ce réseau routier antique a laissé des traces nombreuses dans la voirie actuelle. Il y a même, semble-t-il, des traces encore plus anciennes que ça. Il y a des traces qui remontent à l'époque gauloise, et voire même, peut-être même, à la fin de la préhistoire. Et puis alors, il y a aussi tous les chemins médiévaux. Il en reste également de beaucoup de traces, notamment dans le réseau routier secondaire. Quand on va d'un village à l'autre, parfois, eh bien, on roule là où roulaient nos ancêtres il y a 6 siècles ou un peu plus, quoi.
Donc,
l'équipement public, c'est la voirie. Alors, ça donne aussi quelques ponts. Il n'y en a pas des quantités, mais il y a les vieux ponts de Laval, bien sûr, mais beaucoup moins connus, le pont de Forcé. Il y a un pont à Forcier qui aujourd'hui n'est plus d'ailleurs sur l'eau, la rivière la Joanne ayant été détournée, le pont est à sec, mais c'est un pont extrêmement intéressant parce qu'à mon avis c'est le plus ancien de tout le département. Je pense qu'il date du 12e siècle, il est à côté de la mairie de Forcier et d'ailleurs a fait l'objet de restaurations récentes. À Parnay-sur-Roc également, vous avez un pont médiéval qui est conservé. Alors en dehors de ça, les équipements de l'ancien régime sont assez peu nombreux, mais il y en a quelques-uns qui sont intéressants. Le plus spectaculaire, je pense, c'est ce qu'on appelle la barre ducale à Mayenne, qui a été construite dans les années 1656-1662. Il y a également les halles de Saint-Denis d'Anjou, oui. Qui sont aussi caractéristiques, qui datent, elles, du tout début du XVIe siècle, et qui sont très caractéristiques de ces équipements publics. Mais sincèrement, avant la Révolution, il en reste assez peu de choses. Mmh. En revanche, alors là, c'est abondant pour le XIXe siècle. Vous avez des mairies, je pense à celle de Goron, par exemple, qui est tout à fait caractéristique. Vous avez des écoles qui datent du XIXe siècle.
Oui, beaucoup. Et que nous apprend votre ouvrage sur les activités économiques, justement, anciennes ?
Le patrimoine, effectivement, est un moyen de connaître les activités économiques. Bon, les activités économiques, on les connaît par les archives, hein, par les documents écrits, mais elles ont laissé des traces. L'agriculture, par nature, c'est celle qui, bien sûr, laisse le moins de traces visibles sur le terrain, puisque elle évolue sans arrêt. Mmh. Pourtant, il y a en Mayenne deux équipements intéressants pour ça. C'est le musée de Saint-Ouen-des-Toits et le musée de Juvigné. Le musée de Juvigné a une remarquable collection d'objets agricoles et spécialement de tracteurs anciens. Et c'est vraiment un endroit où on peut voir un peu comment vivaient les agriculteurs, comment ils travaillaient, comment ils vivaient. Je pense notamment à une loge de journaliers qui est à l'entrée du musée de Juvigné. Ça laisse pantois quand on regarde ça. C'était peut-être construction qui ressemble à une grosse niche, et où vivaient tous ceux qui étaient journaliers agricoles et qui allaient de ferme en ferme, qui cherchaient du travail et qui donc promenaient avec eux ce petit équipement extrêmement pauvre et modeste qui leur permettait de dormir la nuit. Alors, une autre trace de l'agriculture plus spectaculaire, c'est les fameux fours à chaux. Vous parliez tout à l'heure du chaulage des terres. Effectivement, ça a été une très grosse affaire en Mayenne. Ça a profondément modifié le panorama en Mayenne et ça laisse des traces malgré tous ceux qui ont été détruits. Il en reste encore de très nombreuses traces, je pense à ceux de Bouer par exemple, à Parnay-sur-Roc encore une fois, à ceux de Louvernay où il y a un très gros ensemble conservé de ces fours à chaux qui restent encore aujourd'hui un marqueur du paysage rural en Mayenne. Pour l'industrie, les traces d'industrie antérieure à la Révolution sont très modestes. C'est pas tellement les équipements industriels eux-mêmes qui sont restés, mais plus les habitats. Je pense aux forges de Chaillan, par exemple. Des forges elles-mêmes, on voit pratiquement plus rien. Mais par contre, il reste des choses de l'habitat. Et puis alors, un certain nombre de ces sites-là ont continué à vivre au XIXe siècle. Port-Briey, par exemple. Hein. Et là, alors là, on a vraiment des équipements du XIXe siècle qui sont sous nos yeux et qui témoignent de l'importance qu'a eu la métallurgie en Mayenne. On a du mal à imaginer ça, mais sous l'Ancien Régime, le Bas-Maine était classé parmi les régions les plus industrielles de France, à cause du textile et à cause, surtout, des fameuses forges, des grandes forges, c'est-à-dire de la métallurgie. On exploitait un minerai de fer qu'on trouvait en surface des champs, que de nos jours on n'exploiterait plus, ça serait plus rentable. Mmh. Mais à cette époque-là, on l'utilisait. Et puis, au XIXe siècle, on a trouvé de l'anthracite qui a permis également de faire fonctionner les fours, les équipements. Et donc, charbon plus minerai égale métallurgie. La métallurgie a été importante en Mayenne et puis ensuite, elle s'est complètement effondrée, évidemment, face à la concurrence. De l'Est de la France.
C'est ce qu'on trouve par exemple à Hermette, les forges d'Hermette.
Voilà. Alors les forges d'Hermette, c'est effectivement un des équipements les mieux conservés pour la métallurgie de l'Ancien Régime. Il y a là encore des bâtiments qui servaient notamment au stockage du bois. Donc à cette époque-là, c'était encore de la métallurgie au bois. Et les forges d'Hermette, qui sont sur la commune de Jublin, sont un bel exemple de cette métallurgie ancienne. À Aron également, vous avez des traces importantes. À Aron, ce qui est plus intéressant encore, c'est tous les travaux hydrauliques qui ont été faits pour diriger l'eau et faire tourner les roues à aubes qui elles-mêmes permettaient de faire fonctionner les marteaux, etc., enfin les laminoirs. Il y avait toute une utilisation de l'hydraulique dont on a un très bel exemple à Aron.
On arrive déjà à la fin de notre émission. Les prochaines s'annoncent du coup passionnantes. Merci beaucoup Jacques Naveau. Nous avons donc parcouru ensemble un peu l'introduction de votre livre. Je rappelle, Le patrimoine de la Mayenne, 500 sites à découvrir, édité par la SAHM. Je vous dis donc à bientôt pour de nouveaux lieux à parcourir ensemble.
À bientôt.